Version originale, Aligre FM, culture, société, création. Version originale, Patrick, Léon, Émile.
Bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue à l'antenne d'Aligre FM. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Version originale. Le lien entre voyage et création littéraire existe bel et bien. Le voyage est parfois une invitation à l'écriture. Nous avons de nombreux exemples d'écriture du voyage, des journaux de voyage à travers les ans. Le carnet de voyage est-il de l'ordre de l'intime? Lorsque l'on tient un carnet de voyage, écrit-on sur le pays, les lieux que l'on invite, que l'on visite, pardon, ou bien sur soi, face à ces lieux et ces pays? Qu'est-ce qui incite à consigner ces impressions lorsque l'on séjourne dans un pays étranger? Nous allons évoquer ces questions avec Serge Safran, qui publie du Zanskar à Séoul, aux éditions Héliopole. Bonsoir Serge Safran.
Bonsoir.
Bienvenue à l'antenne d'Aligre FM, Serge. Je suis ravi de vous recevoir. Vous êtes donc éditeur et écrivain. Vous publiez donc aux éditions Héliopole du Zanskar à Séoul. Alors ce livre regroupe donc des fragments d'un journal beaucoup plus vaste.
Hein. Oui, oui.
Ce que vous appelez donc fragments sont constitués par vos écrits de voyage en 6 lieux différents. La Dak, Zanskar, Chypre, Montréal et Séoul. Alors déjà, on va essayer de comprendre cette démarche d'écriture du carnet, pourquoi la publication aujourd'hui, pour savoir où se situe-t-on dans le carnet de voyage? Est-ce que c'est de l'intime? Est-ce que c'est une expression littéraire? Mais avant toute chose, pourquoi est-ce que vous choisissez de relater spécialement ces 6 voyages? Qu'est-ce qui vous incite à détacher ces fragments de l'ensemble de journal de voyage?
Oui, c'est une excellente question. Alors, ouais, ces textes-là sont présentés dans l'ordre chronologique. Et donc, il y a une évolution à la fois dans l'écriture et puis dans la perception et dans la motivation aussi du voyage. En fait, le premier voyage de l'autre côté du Ladakh, c'est un texte que j'ai écrit pour ne pas écrire. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais dans une situation de très grande dépression et j'avais commencé à écrire un journal et j'avais l'impression que ce journal dévorait ma vie. Et parallèlement, j'ai lu le livre d'une amie qui avait fait un guide sur le Ladakh, c'était le premier, c'était une région qui était inconnue et j'étais vraiment très mal dans ma peau. Je me suis dit, mais pourquoi je n'irai pas là-bas? En fait, l'idée c'était d'aller le plus loin et, ce que je n'avais pas prévu, le plus haut possible. Et donc, mais pour ce voyage-là, j'étais parti avec la volonté de me séparer de tout ce qui me faisait, disons, souffrir là où je vivais à ce moment-là. Je ne sais plus si c'était Bordeaux ou Paris, j'ai des problèmes de mémoire. Mais c'était aussi pour arrêter d'écrire le journal. Et en fait, dès que je suis arrivé à Delhi, où j'ai pris l'avion cette fois-là, j'ai pas pu résister au fait d'écrire ce que je voyais, ce que je ressentais et ce qui m'arrivait. C'était vraiment l'impression de sortir de moi et d'aller par la force des choses au-devant des autres. Parce que antérieurement, j'avais fait des voyages, des très beaux voyages, mais accompagné. Mmh. Je n'étais pas seul. Et donc, en fait, quand on n'est pas seul, on a envie de partager avec les gens qui on voyage. Et donc, on n'éprouve pas nécessairement le besoin et on n'a pas le temps de prendre des notes ou de raconter ce qu'on est en train de vivre. Et là, j'avais fait un voyage par la route. C'était la grande époque, c'est la grande mode, je ne le savais pas parce que j'en faisais partie, vous savez, de On the Road, des chemins de Katmandou. Donc j'avais fait déjà la route jusqu'en Inde par les transports en commun, chose qui aujourd'hui serait absolument impensable. Mmh. Vous voyez traverser l'Afghanistan, par exemple, ou l'Iran, enfin, c'est impensable. Ouais. Et puis là, en revanche, j'ai pris l'avion pour Delhi, et après, j'ai fait la route à pied. Et c'est en cours de route que donc je suis allé au Ladakh, puisque c'est là mon but de voyage, et des gens que j'ai rencontrés en cours de route m'ont proposé d'aller aux Zanskars et de traverser le Zanskar pour se retrouver dans l'Himachal Pradesh, c'est-à-dire dans le nord de l'Inde. Et c'est étonnant, je lisais cet après-midi dans un magazine, il y a une jeune femme qui a fait un reportage sur le Zanskar qui est en train d'être projeté dans des salons, des films sur la montagne. Et le journaliste raconte que les Zanskaris sont en train de construire une route parce que quand j'y suis allé, il fallait, je sais pas, faire parfois 10, 15 kilomètres à pied par jour pour aller d'un point à un autre. Il n'y avait pas de moyen de transport.
Mais donc, Serge Safran, l'acte d'écriture, le geste d'écriture n'était pas prévu. C'est quand c'est en voyage sur le lieu que vous avez choisi de visiter, que vous avez décidé donc d'écrire, c'est ça?
Ça a été plus fort que moi. Bon, j'avais de l'entraînement, mais je ne parlais que de mes malheurs. Et là, je parlais d'autre chose. Et puis, de fil en aiguille, c'était d'ailleurs sans perspective de publication. Mais il est arrivé des choses extraordinaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais dans un train au Cachemire, et sur la banquette d'un train, je vois un livre des éditions Vrac qui était dirigé par un copain qui était à Paris et qui d'ailleurs m'a après publié mon récit de voyage, parce que quand je suis revenu, j'ai pensé que ça pouvait faire l'objet d'un livre, puisque je parlais de... C'était peu connu à l'époque. Cela dit, c'est pas beaucoup encore aujourd'hui. Enfin, le Zanskar est très peu connu, le Ladakh un peu plus. Et donc, ça a été le premier qui a fait l'objet d'une première publication, qui ensuite a été reprise, puis ensuite, et là, ça c'est une troisième reprise, parce que à chaque fois, je ne mets pas la même matière. Enfin, je change pas, évidemment, on ne change pas les choses, mais par contre, on peut raccourcir ou rallonger, et puis j'avais censuré certains passages pour X raisons que j'ai laissées libres.
Mais lorsqu'on lit donc ces carnets, Serge Safran, on comprend bien que vous donnez donc des temps pour écrire, hein, vous incitez bien. Prendre le temps d'écrire, ce n'est pas juste des notes jetées comme ça à la vide. Vous consacrez du temps à écrire vos impressions, à dire ce que vous voyez autour de vous. Et aussi, je m'en compte que votre écriture est souvent brève,
oui, lapidaire,
furtive, mais en même temps, elle laisse une trace, elle creuse une réflexion. Mais il y a une veine poétique qui fait que malgré ce côté bref, un peu lapidaire, il y a quelque chose qui reste.
Mais en fait, j'avais déjà publié essentiellement de la poésie. Donc j'avais vraiment, c'était mon mode d'expression. Et donc ça se sent, je pense, beaucoup dans le premier texte. Après, je pense que ça s'atténue, mais il y a cette dimension effectivement qui vient de souligner, et puis la découverte d'un monde que j'ignorais totalement, c'est-à-dire que quand vous entrez dans un monastère du Ladakh et que vous voyez les tankas, les statues de Bouddha, parfois des figures qui s'accouplent sexuellement, et puis que on a été éduqué, enfin moi, dans une civilisation où il y a un homme qui est crucifié sur une croix, et il y a vraiment un changement de vision complet du monde et de la vie. Et cette rencontre m'a fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien, et j'avais envie de transmettre ce bien que j'ai ressenti. Quoi, voilà.
Alors, l'idée aussi de ce qu'on appelle le carnet de voyage, je le disais au début, est-ce que pour vous, le carnet de voyage, c'est une... Parce que on écrit, donc on écrit, c'est pour être lu. Alors, vous avez bien expliqué les raisons qui vous ont porté à faire ce voyage, mais quand vous passez donc au fait d'écrire, écrire un carnet, est-ce que c'est d'ordre de l'intime? Quelle est la nature d'un carnet de voyage? Comment est-ce que vous pourriez le définir?
J'ai du mal à vous répondre. C'est nécessairement intime, puisque... mais c'est intime avec une ouverture totale vers l'autre, le regard des autres. Je me suis rendu rétrospectivement compte que je n'avais eu aucun problème de communication avec les Sherpas, avec les Ladakis, dont on ne parlait pas du tout la même langue. Ils ne parlaient pas anglais, moi je le parle mal, mais sauf les gamins qui avaient déjà vu des quelques touristes anglais qui demandaient one pen. Au début, je demandais ce qu'ils voulaient, puis en fait, ils voulaient un stylo, parce qu'ils n'ont rien. Enfin, ils n'avaient rien, d'ailleurs, c'est un peu le cas aujourd'hui. Mais... j'avais pas du tout c'était pas du tout dans mon intention que ce soit publié, hein. Enfin, je veux dire, je n'en ai pris conscience que rétrospectivement. Et puis aussi, il y a eu une rencontre importante au cours de ce voyage dans un monastère avec quelqu'un qui est devenu un ami par la suite, Raphaël Gaillard, un grand photographe, qui avait déjà publié un livre de photos sur le Ladakh et qui était là pour continuer son travail. Et c'était une rencontre assez étonnante parce qu'on s'est rencontrés dans le monastère et on était contents de se rencontrer, mais en même temps j'ai senti qu'il y avait une gêne. Et la gêne, je l'ai comprise qu'après. C'est que j'étais accompagné d'un couple dont un était photographe, et en fait, ils étaient donc sur le même terrain de chasse. Mmh. Ils avaient une rivalité que je n'ai pas du tout perçue. J'ai perçu la gêne, mais je n'ai pas compris d'où elle venait. Moi, j'étais très naïf. Et puis, en revenant à Paris, dont j'habitais encore à Bordeaux, il y avait une exposition de photos sur le Ladakh de Raphaël Gaillard, dont je suis allé voir l'exposition. Il était là. Et puis il m'a dit, si tu publies ton récit de voyage, je te donne des photos, on fera la couverture ensemble et tout. Un éditeur a été emballé, et puis il a fait... Enfin, c'est plus compliqué que ça, parce que... Ben, enfin, bon, on ne va pas trop rentrer dans les détails.
Est-ce que, Serge Safran, lorsqu'on est en voyage comme ça, est-ce qu'on évoque davantage... plus ses sentiments, ses impressions, que davantage de descriptions? Comment est-ce que vous êtes arrivé à équilibrer, d'une part, à décrire ce que vous voyez autour de vous et à dire vos impressions? C'était quelque chose d'assez spontané? Il n'y avait pas de réflexion autour de ça?
C'est-à-dire que le deuxième voyage qui est dans le livre, j'étais parti dans une autre perspective, parce qu'en fait, c'était avec Raphaël, on était parti donc à Chypre. C'était pas longtemps après la séparation de l'île entre les Turcs et les Grecs. Et l'idée, c'était que je fasse un texte et que lui ferait les photos. Enfin, c'était un peu plus son idée à lui que la mienne. Donc j'ai quand même écrit là dans une optique un peu différente. Et d'ailleurs, cela a donné un seul reportage sur un moine qui peignait des enluminures, qui est paru dans la presse, mais qui n'est pas dans le journal. C'est autre chose. L'écriture n'est pas la même. Et puis, le troisième voyage, donc, où je reviens en Inde, au Punjab, où là j'ai vécu des choses vraiment extraordinaires, au premier sens du terme, c'était encore sous ce rapport implicite, sous le fait que j'écrirais ce que Raphaël photographierait, etc. Et là, par contre, ce journal du Punjab, où on est resté 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus, dans une période très, très politiquement très perturbée, a donné lieu à une publication dans un magazine qui aujourd'hui n'existe plus, donc on peut le retrouver dans le livre, c'est quasiment inédit. Et les autres textes de Montréal, c'était une toute autre optique, puisque là j'allais à la rencontre de poètes. Et bien, parce que parallèlement, mon implication dans l'édition s'était totalement affirmée. Donc j'avais non seulement un regard d'écrivain, entre guillemets, mais aussi d'éditeur.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Culture, société, création, en version originale, Patrick, Léon-Émile.
En compagnie de Serge Safran, qui publie Du Zanskar à Séoul, aux éditions Héliopole. J'évoquais donc la veine poétique des textes donc de ces carnets de voyage. Quand vous avez décidé donc de publier donc cette partie-là, donc d'où ce livre qui vient de sortir, est-ce que vous avez, en relisant vos carnets, vous les avez retravaillés? Comment s'est fait cette publication?
En fait, comme c'est un journal, je pense que on ne peut pas modifier ce que l'on a écrit dans l'instant présent, je veux dire, ou alors on écrit avec ses souvenirs, sa mémoire, et en ce moment-là, c'est un autre type d'écriture. Mmh. Non, j'ai juste relu les textes de façon à ce qu'il n'y ait pas de faute, à ce qu'il n'y ait pas de répétition inutile, ou en vérifiant l'orthographe de certains mots, mais c'est vraiment, comme on dit familièrement, brut de décoffrage. Mmh. Sauf que je pense qu'au fil du temps, j'avais acquis une maîtrise de l'écriture par le fait d'abord de l'écriture du journal qui est quand même une certaine école d'apprentissage mais toujours fondée sur ce qu'on appelle le réel et ce n'est pas de la fiction. Alors avec le recul dans le temps, quand je relis, j'ai vraiment l'impression que
c'est ça qui est intéressant,
c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est quelqu'un d'autre qui a vécu ça. Et l'autre jour, je faisais une émission de radio aussi où on me lisait des extraits du texte et je reconnaissais pas que ce que j'avais écrit. Quoi. Donc c'est pas grave. L'important, c'est que le lecteur, enfin bon, l'idée, c'est de faire découvrir des pays qui sont quand même pas tout. Je me rends compte qu'aujourd'hui encore, le Zanskar est très peu connu. C'est un petit royaume, je ne sais pas s'il y a encore un roi d'ailleurs, qui fait partie du Ladakh, du petit Tibet. C'est en plein Himalaya. Et alors, j'ai lu il n'y a pas longtemps dans Le Monde un grand reportage sur le Zanskar qui subit aujourd'hui deux problèmes énormes. C'est la fonte des glaciers qui modifie énormément la vie quotidienne, l'acheminement de l'eau et tout ça, qui est très important dans cette région. Et puis, quelque chose qui est très dévastateur, c'est du tourisme. Le tourisme de masse de la classe moyenne indienne, parce que le Ladakh, ça fait partie de l'Inde. Dans l'article que j'ai lu, mais cet après-midi, c'est une coïncidence, ils sont en train de construire une route, ils s'organisent pour alterner la construction de la route avec le travail au champ, parce que c'est l'occupation des Zanskaris est essentiellement agricole et puis d'élevage. Donc, mais là, cette route-là va permettre de les relier davantage au monde moderne et avec les avantages et surtout les inconvénients.
Alors, très très brièvement, hein, le Zanskar est situé à l'extrême nord de l'Inde.
Oui.
Donc, la vallée du Zanskar fait partie donc du territoire de l'Union du Ladakh.
Mais c'est l'Inde.
C'est l'Inde, absolument.
C'est l'Inde, mais c'est d'une culture tibétaine. Ça n'a rien à voir avec la culture indienne.
Et qui a été donc séparée du Cachemire en 2019, peut-on l'information qu'on peut lire. On va écouter juste un peu de musique, juste la musique que nous avons prévu d'écouter, c'est celle de Anwar Brahem. Donc là, une pause musicale et on reprend notre entretien ensemble. Je rappelle donc le titre de votre livre, Serge Safran, Du Zanskar à Séoul, c'est publié aux éditions Héliopole.
Aligre FM 93.1.
La musique d'Anouar Brahen, Anouar Brahen Trio, c'est sur l'album Astakhan Café, le titre du morceau The Mosdok's Train, le train de Mosdok. Mosdok est une ville de la République d'Ossétie du Nord, une République autonome de Russie, donc c'est différent bien sûr de ce que nous évoquons avec vous, Serge Safran, dans votre livre Duzanska à Séoul, publié aux éditions Héliopole. Et vous le soulignez, Serge, que effectivement, tous vos voyages ont été faits, enfin, ceux que vous relatez là, en tout cas, en solitaire.
Oui. Oui, mais alors donc le premier voyage, je suis parti seul, effectivement. Je savais que je rencontrerais sur place Géraldine, l'auteur du guide sur le Ladakh, parce que je savais qu'elle était sur place, mais on ne s'était pas vraiment donné rendez-vous. Je l'ai à peine croisée. En revanche, j'ai rencontré les gens dont je parlais tout à l'heure, qui eux étaient là pour faire un livre sur le Ladakh, et je me suis et c'est eux qui m'ont proposé d'aller dans le Zanskar, de le traverser arriver à Manali en Inde du Nord, mais j'étais pas du tout équipé, j'avais un pull-over, une chemise et un kawé, et à 4000 mètres, ça m'a posé des problèmes. Mais j'ai pas eu de problème de santé, j'ai failli avoir à un moment donné les mains gelées, mais je réalisais vraiment pas, quoi. Et après, les autres voyages, oui, Chypre, j'avais saisi l'occasion pour m'éloigner d'une liaison qui me perturbait beaucoup. Pour le Punjab, je me souviens plus, mais c'est là si j'avais rendez-vous avec Raphaël. Enfin, c'est assez amusant parce que c'est le. Vous imaginez que on vous donne. J'avais un rendez-vous. Le seul critère que j'avais, c'est on se retrouve derrière le temple d'Anandpur Sahib. Donc je suis parti de Paris.
Extraordinaire.
J'étais déjà allé en Inde, donc. Mais bon, à partir de Delhi, il m'a fallu prendre le train, le bus, et finalement, je suis arrivé derrière le temple où je n'ai pas trop tardé à le trouver. Pardon.
Alors, dans la construction du livre, Serge Safran, il y a bien sûr donc la description, les impressions donc de ces lieux de voyage. Donc, on l'a dit, donc le Ladakh, Zanskar, Chypre, le Punjab, Montréal et bien sûr Chypre, et aussi Séoul. Et donc, pour ce qui est de la construction du livre, vous insérez donc entre chacun de ces séjours, de ces carnets, donc un interlude. Et pourquoi cette construction justement? Qu'est-ce que ça peut apporter dans la compréhension de l'ensemble?
Ça m'est venu naturellement. Et je savais pertinemment qu'il y avait un lien, puisque c'est moi qui ai fait ces voyages. Et donc j'ai cherché à montrer de façon relativement rapide comment je suis passé d'une étape à l'autre, avec une évolution. Par exemple, à Chypre, il était plus ou moins prévu de faire un reportage que je n'ai pas fait. À Montréal, là, j'étais déjà éditeur, j'éditais des auteurs québécois, et la maison d'édition pour laquelle je travaillais faisait beaucoup de coédition. Donc en fait, j'avais décidé de rencontrer les poètes du pays. Mais ce qui est assez amusant, qui est difficile de percevoir aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, la culture, la francophonie, enfin la culture québécoise était terriblement subventionnée, et donc le moindre type, le moindre gars, la moindre fille qui avait quelques poèmes arrivait à se publier. Donc en gros, presque tous les gens que j'ai rencontrés étaient tous poètes, avaient tous publié. Et c'était, alors il y avait des grands poètes comme Gaston Miron ou d'autres, mais des poètes plus mineurs, peu importe. Mais ça a été mon mode de circulation, parce que l'un me disait « Ah ben, il faut que tu rencontres un tel », l'autre disait « Ah ben oui, mais ah, lui, je le déteste, mais enfin, tu peux quand même aller le voir », enfin, voilà. Mais ça n'a pas donné lieu, enfin, ça a donné lieu au journal que j'avais essayé de proposer au Québec, mais ce regard d'un étranger, je pense, ne leur avait pas plu. Et puis... Et alors, à Séoul, c'est encore... Là, j'étais devenu de plus en plus éditeur.
Oui, parce que vous avez édité des auteurs coréens,
notamment. J'ai publié presque une vingtaine d'auteurs coréens, dont d'ailleurs, je suis le premier éditeur en France de Han Kang, qui a eu le prix Nobel l'année dernière.
C'est ça.
Bon, c'est un détail, mais... j'y allais avec une... Mais j'avais donc découvert déjà la culture coréenne à travers la littérature, ce qui est quand même pas la même chose que la société, quand même. Et puis, donc, j'y allais avec, pour parfaire ma connaissance du milieu littéraire et éditorial. Donc, mais parallèlement, je découvrais un pays avec sa nourriture, ses vêtements, enfin, ses moyens de transport, enfin, une autre culture que la nôtre.
Il y a aussi un aspect qui est intéressant dans ces carnets, Serge Safran, c'est la spiritualité avec un grand S. Donc j'entends par là, donc plus précis, c'est on sent que dans le chapitre donc de l'autre côté du Ladakh, il est quand même imprégné de la spiritualité bouddhique. Vous apportez beaucoup de précisions sur les définitions des éléments. Donc là, il y a eu une quête spirituelle.
Oui, oui.
Qu'est-ce qu'il en est resté? Comment ça s'est passé?
Écoutez, j'ai quand même compris que le bouddhisme n'était pas une religion, mais une philosophie, ce qui est quand même très différent. Même si cette philosophie utilise, alors c'est un peu complexe, mais elle utilise quand même des représentations. Parce qu'il y a différentes étapes avant d'accéder à la sagesse, au nirvana, j'en parle même pas. Et donc, d'où les temples, d'où les reproductions de dieux ou de déesses, mais qui ont tous une signification. Ça m'intéressait évidemment de découvrir... qu'est-ce que ça signifiait. Bon, je ne suis pas devenu bouddhiste, mais je pense que quand même, si ça m'a... Ça a modifié mon regard de la vie, oui. Oui. Il y a une quête. Mais même au Punjab, c'était très différent, parce que là, j'ai été confronté à une situation politique très, très, très particulière. Je me suis retrouvé à prendre le thé avec Brindawale, qui était le Ben Laden sur place. Et d'ailleurs, les gens que j'ai rencontrés à ce moment-là ont tous été assassinés dans le Temple d'Or quelques temps après. Donc j'ai pris le thé avec un terroriste sans savoir qui il était vraiment. Et ça s'était d'ailleurs très bien passé. Bon, il y avait des types qui avaient des mitraillettes partout, mais j'étais quand même, je crois, très inconscient. Mais en même temps, c'était intéressant, ça m'intéressait, parce que c'est des... Pourquoi ils m'ont reçu, ils m'ont accueilli? Parce que j'arrivais de l'extérieur et ils pouvaient me transmettre leur message, ce qu'ils voulaient. Alors, est-ce que ce qu'ils voulaient était juste ou pas juste, c'est un autre problème. Mais donc, dans cette optique-là, j'étais bien reçu. De toute façon, dans tous mes voyages, honnêtement, j'ai toujours été très bien reçu. Enfin, j'ai des souvenirs où on m'a jeté des cailloux quand j'approchais d'une mosquée à Herat lors de mes premiers voyages, mais c'était vraiment... j'étais vraiment... Je faisais pas ce qu'il fallait faire, quoi, donc je savais pas.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Je rappelle le titre du livre de mon invité, du Zanskar à Séoul, Serge Safran, donc publié dans les éditions Héliopole. Je vous cite, Serge Safran, vous dites « Ces voyages peuvent témoigner d'une quête que je ne saurais qualifier sans en trahir l'existence fondamentale que je cherche encore à comprendre au moment où j'écris ces lignes. » Il y a donc, quand on lit, il y a beaucoup de passages du livre. J'évoquais effectivement la veine poétique, mais souvent, cette veine poétique se développe quand il faut parler de ce qui est un peu confus, un peu insaisissable, un peu de l'ordre qui touche un peu au mystique. J'insiste beaucoup sur cette question. Et qu'est-ce que, après ce voyage, on a compris ce que vous avez dit sur le bouddhisme, après ce voyage, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous avez retenu de ces expériences?
C'est difficile.
Parce que oui, c'est des souvenirs qui remontent, mais comme ça imprègne beaucoup le texte, on a envie d'en savoir un peu plus.
Oui, il y a vraiment...
Qu'est-ce que vous avez apprécié sur vous-même, par exemple?
Je pense que oui, ça m'a permis de... Ça m'a relativement apaisé. Il a fallu beaucoup de temps. Parce que... Oui, d'ailleurs, vous me poseriez la question, quelle est votre religion? J'en ai pas. Enfin, ou ma religion, ce serait l'écriture. Et c'est le...
Parce que justement, ce qu'on voit, ce n'est pas du tout l'idée d'une religion et d'une divinité est triquée. C'est quelque chose de beaucoup plus grand que ça, de beaucoup plus vaste.
Oui, c'est la rencontre de l'humain et dans ce qu'il y a de différent. Mais c'est vrai que je me rends compte en parlant avec vous que j'ai toujours... Il y a une tradition quand même dans toutes les cultures, en tous les cas, je dirais peut-être pas de toutes, parce qu'il y a des conquistadors qui ont été reçus à coups de flèche et de hache. Bon, donc peut-être pas partout, mais peut-être aussi parce que les gens qui sont envahis ou colonisés, etc., le ressentent et ressentent l'agression. Mais je crois que si vous arrivez que il y a quand même une tradition de l'hospitalité. Au cours d'un de mes précédents voyages, dont je ne parle pas dans ce livre, puisque c'était en Iran, je descendais d'un bus et un professeur nous a invités à venir boire chez lui. Il a renté sa bicyclette, il a fermé les lumières pour pas qu'on sache de l'extérieur. Donc on était dans un contexte politique où cet homme-là nous avait reçus avec beaucoup de chaleur. Il parlait français en plus. Enfin bon, mais on sentait qu'il y avait un environnement qui pouvait être hostile, mais qui est lié à la politique. Comme au Punjab, c'était un peu différent, mais... Il y avait quand même une tradition... Et par exemple, quand je suis allé chez les Yan Singh, ce sont des gens qui vivent à nos yeux comme on vivait peut-être au Moyen-Âge, c'est-à-dire en chevaux, etc. Ils sont se droguent. Et donc, ils m'ont offert un bol d'un mélange de hashish, opium et je ne sais pas quoi qui m'a donné des hallucinations. Il m'a fait dormir pendant 24 heures. Mais c'était... Et voilà. Autre anecdote aussi, par exemple, au Tibet, il est de tradition d'offrir du gourgour chai.
C'est
du thé au beurre rance. Alors, qui est une boisson très riche et très nourrissante pour eux, mais qui a un goût absolument infect pour nous. Et donc, ils vous offrent ça. Alors, vous devez avoir votre propre bol sur vous, parce qu'on ne vous prête pas de bol. Mais le problème, si vous le buvez, disons, rapidement, pour, en disant « bon », et puis il vous re-remplisse le bol, quoi. Donc c'est une petite torture, mais liée à l'hospitalité. Mmh. C'est-à-dire que pour eux, c'est quand même important de vous offrir. Et ça fait partie des choses qu'ils peuvent vous offrir. Après, dans les choses qu'ils m'ont offert, c'était de nous accueillir pour dormir. On n'avait rien à manger, ils nous amenaient du riz, alors qu'eux-mêmes n'ont pas grand-chose à manger. Non, j'ai vraiment toujours été très bien accueilli. À Montréal, bon, évidemment, j'étais toujours accueilli.
Il y a un aspect qui m'a intéressé, c'est le rêve. Vous relatez souvent, il y a des rêves qui sont relatés dans ce carnet. Est-ce que vous avez l'impression que vous étiez plus attentif à vos rêves en voyage plutôt qu'en quand vous êtes en France?
Je suis très attentif et curieux de mes rêves. Parce que je pense qu'il... Alors bon, on a beaucoup écrit là-dessus, Freud et compagnie, mais disons que les rêves, ils sont censés nous libérer, je crois, des choses qui nous préoccupent. Et il y a quand même toujours un lien avec le réel. Et alors, est-ce qu'on rêve différemment en voyage? Je ne me suis pas posé la question, mais si j'évoque des rêves, c'est parce que ça fait partie de la vie, intégrale de la vie.
Vous évoquez effectivement ce moment où vous recevez une lettre de votre mère qui vous annonce que l'état de votre père est alarmant.
Oui.
Et vous, la nuit précédente, vous aviez rêvé de cela.
Alors ça arrive, c'est des choses de prémonitoire. Mais ça peut s'inventer dans un roman, mais dans la réalité, ça impressionne. Grâce à vos questions, j'arrive à me rendre compte que effectivement, il y a toujours une quête. On pourrait la qualifier de philosophique plus que de mystique,
Mais il y a une recherche.
qui continue.
On en reparle juste après cette deuxième pause musicale.
Trying to find a warm place to spend the night. Heavy rains are falling. Seems I hear your voice calling. All right. A rain. That it's raining all over the world. I feel that it's raining all over the world. Neon signs are flashing, taxi cabs and buses passing through the night. A distant moaning of the train seems to play a sad refrain. That it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. Got to play the game.
La voix de Randy Crawford, le titre du morceau « Rainy Night in Georgia ». Alors, pour ce qui concerne l'Amérique du Nord, c'est à Montréal que mon invité a séjourné, dont il en parle dans son livre « Des Anska à Séoul », Serge Safran, qui publie donc ce livre aux éditions Héliopole. J'ai beaucoup, en préparant cette émission, Serge Safran, penser donc à la notion d'Orient, Orient, orientation, orienter, s'orienter. Donc cette capacité de tout individu à se situer dans le temps, dans l'espace, l'action de donner une direction déterminée, on emploie le terme orientation, orienter, et en même temps on parle de l'Orient. C'est très surprenant de voir comment cet Orient qui a eu tout un aspect qui a attiré, pour faire simple, l'Occident pendant très longtemps, et qui en même temps désigne ce qui nous détermine, nous oriente, nous aide à nous positionner. Ce qui m'amène à vous poser la question. Donc, vous avez donc séjourné de votre manière dans cet Orient qui est parfois fantasmé. Ce n'est pas du tout votre cas, hein, en tout cas. Hein. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est surtout cet Orient qui est venu à vous plutôt que l'inverse?
Alors, en tous les cas, instinctivement, parce qu'on ne peut pas parler de culture, j'étais attiré par l'Asie. Alors, ça peut-être remonte à Tintin au Tibet, dans ma jeunesse, mais c'est assez étonnant parce que je suis parti en Asie à une époque où beaucoup de jeunes occidentaux partaient aux États-Unis. C'était la période hippie, peace and love, etc. Et beaucoup partaient faire des voyages. Et j'ai jamais pensé. Ou d'autres allaient plutôt en Amérique du Sud, d'une autre culture. Mais moi, directement, ça a été d'aller. Mon premier voyage, finalement, j'y suis allé par les transports en commun. J'ai traversé tous les pays, la Yougoslavie, la Grèce, la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, pour arriver à Sri Lanka. Et d'autres allaient à Katmandou. Alors, c'était aussi lié au chemin de la drogue, qui n'était pas du tout dans mes premiers voyages. Un objectif, ni un mode de vie. Je vais vous faire sourire. La première fois que j'ai débarqué d'un bus à Herat, donc en plein Afghanistan, il y a des types qui sont venus me proposer ce que je pensais être des bouses de vache. Et je me suis dit, mais pourquoi ils vendent des bouses de vache? Et en fait, j'ignorais totalement, c'était des galettes de shit, mais énormes. C'était des fortunes, mais qui m'auraient vendu pour quelques Afghanis, c'est-à-dire pour des sommes vraiment ridicules. Mais j'étais complètement innocent par rapport à ça. Et en revanche, dans mon premier voyage que je raconte, là, le voyage au Ladakh, là je rencontre des gens qui faisaient la route et qui fumaient du shit, qui faisait des infusions, et donc évidemment, par esprit de solidarité, de communion, je me suis prêté à ce jeu. Au Punjab, c'était très différent, je me suis fait avoir. C'est-à-dire que là, vraiment, ils m'ont offert un bol très gentiment, mais c'était le diable qu'il y avait dans le bol. Mais, cela dit, je n'ai pas du tout regretté, parce que ça a été une expérience unique, avec des hallucinations impressionnante, comme quand on prend du LSD, enfin c'était parce que j'avais déjà pris du LSD, enfin il faut pas le dire, et donc ça a été vraiment bon. Après j'ai plus ce genre de problème, sauf les boissons qu'on vous offre dont vous n'avez pas l'habitude du goût, et comme le gogur chai, je me souviens aussi qu'à Sri Lanka on avait dormi sur la plage et le village nous avait apporté des boissons qui étaient absolument imbuvables, mais qui, j'imagine, pour eux, étaient quelque chose de positif. Mais je m'égare un peu, on était parti sur...
Non, c'était cette notion d'Orient, je vous demandais.
De l'Orient, oui. Donc, j'ai toujours... Bon, je suis allé une fois à Montréal, donc j'en avais profité d'ailleurs pour aller à New York, mais... C'était la poésie qui m'avait mené là-bas, c'était pas l'attrait. J'avais été, en revanche, j'avais été un peu choqué de l'influence de l'américanisation du pays. Ça m'a choqué. J'ai toujours perçu les Américains comme des envahisseurs. Je sais bien qu'ils nous ont libérés en 40, mais bon, c'est quand même un pays qui enfin, mais alors que l'Asie, non. Enfin, une certaine Asie, parce que bon, je connais pas la Chine, mais enfin, c'était quasiment impossible d'y aller en Chine. Enfin, à moins il fallait parler chinois. Et parler chinois, je sais que c'est très dur. Mais alors qu'en Corée, on pouvait parler quand même anglais. Et puis je savais bredouiller quelques mots de coréen.
Ça allait.
Mais je me suis quand même aventuré dans tout seul en Corée du Sud où les gens ne parlaient pas anglais, quoi. Donc, on arrive toujours à se faire comprendre quand il s'agit de dormir, de manger.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Serge Safran, donc on connaît votre relation avec la littérature. J'ai dit donc vous êtes vous-même écrivain, vous avez écrit de la poésie, vous êtes éditeur également, et vous évoquez hein, des romanciers, des poètes dans votre livre, sans pour autant mettre entre vous et le monde que vous découvrez concrètement un voile d'érudition. Hein. Vous êtes évoqué de façon très très simple et très subtile. Et vous avez également, donc, dans le. Il y a donc en exergue de votre livre une citation donc, de Gérard de Nerval. Tu ne m'as pas encore demandé où je vais, le sais-je moi-même. J'aime beaucoup cette citation. Donc, est-ce que le voyage en Orient de Nerval, livre de voyage par excellence, est-ce que cela vous a accompagné quelque part en vous, ce texte-là?
Cette citation m'avait beaucoup interpellé, parce que en plus le voyage en Orient de Nerval est en très grande partie, même totalement, je crois, fantasmatique, à la différence du voyage en Orient qu'ont fait Flaubert.
Celui de Nerval, on ne sait plus où on est. Est-ce qu'on est dans le rêve ou dans le...
Voilà, il y a cette dimension-là. Mais c'est vrai que c'est une question... le poète pose là une question existentielle. C'est-à-dire que je ne saurais pas vous dire, moi, pourquoi je suis allé, pourquoi j'ai été attiré par l'Asie, pourquoi... parfois, il y a des coïncidences, il y a des... par exemple, moi, la Corée, je l'ai découverte à travers, non pas les écrivains coréens, mais par un écrivain français qu'on ne lit plus aujourd'hui, qui s'appelle Georges Ducrot, et qui avait écrit un texte, Pauvre et douce Corée, que j'ai publié d'ailleurs, que j'ai réédité à l'époque où j'ai découvert ce texte, qui avait fait scandale d'ailleurs à l'époque. C'est très impressionnant de le savoir aujourd'hui. Il avait fait scandale parce qu'il présentait pour la première fois des êtres asiatiques de façon positive. Nos ancêtres étaient très, 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 très fortement racistes. Le jaune, c'était vraiment comme le noir. Enfin, c'était vraiment. Et donc, le livre a fait scandale parce qu'il disait du bien des Coréens. Et c'était dans une écriture qui est. Et c'est aussi pour ça que j'avais réédité ce texte, qui est très, très bien écrit. Et. À mi-chemin entre Pierre Loti et Marcel Proust. Enfin, il y avait cette dimension-là chez Ducrot. Mais il a écrit très peu. Mais ce texte-là est magique. Il m'a fait. C'est comme ça que j'ai découvert la Corée. Alors, il était préfacé, postfacé par des gens qui connaissaient très bien et qui m'ont accueilli quand je suis allé sur place et qui m'ont permis de mieux connaître. La façon dont les auteurs coréens étaient traduits et dont ils étaient publiés. Il y avait encore des gens qui étaient en prison. Et donc, quand j'ai publié Han Suk-yong, il était encore en prison, enfin je veux dire, il sortait d'un régime dictatorial, quoi. Donc en même temps, avec une évolution vertigineuse. Mmh. Quand je suis dans le, je sais plus si je le raconte dans le voyage là dans ce livre, mais à l'époque, donc ça remonte, j'ai pas la notion des dates, il y avait déjà des gens qui sur leur téléphone regardaient des séries télévisées. Alors bon, alors maintenant ça a lieu, hélas. Mmh. Dans le métro à Paris, mais moi, ils étaient vraiment très, très en avance. Bon, c'est intéressant aussi de voir.
Et pour finir, Serge Safran, il y a une phrase, page 202, de votre livre qui a retenu mon attention. Vous dites « Tout voyage rappelle que l'impossibilité d'achever un poème ». C'est très énigmatique. On va le laisser comme ça, mais oui. Je trouve ça très beau.
Mais il y a, j'avais aussi dans cette volonté de publication, ça va vous faire sourire, mais une dimension testamentaire. C'était très important que ce livre paraisse, parce que, les journaux, c'est un... Je ne dis pas que c'est un genre, on écrit un journal parce que ça répond à une nécessité. Et la publication, elle a lieu ou pas, et publier son journal de son vivant pose beaucoup de problèmes. Parce que en parlant de vous, vous parlez des autres, et évidemment les autres ne vous voient pas comme vous les voyez. Donc ça, et tous les... diaristes, comme on dit, qui ont publié de leur vivant, que ce soit les Goncourt ou les Otto ou d'autres, ont eu un retour de bâton de ce qu'ils racontent, quoi. Enfin, pas nécessairement sur eux, quoique, mais sur les autres. Et donc ça pose, pour moi c'est important, parce que c'est devenu mon mode d'écriture dominant. Qui est à la fois vital pour moi, mais socialement suicidaire, puisque ça n'intéresse pas grand monde quand vous êtes inconnu. C'est un peu différent quand quelqu'un est mort, on publie son journal. Là, c'est un vaste sujet.
Donc le titre du Zanskar à Séoul, c'est aux éditions Héliopole. Merci Serge Safran. Merci de nous avoir parlé donc de ces carnets de voyage. Le temps de vous remercier, amis auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. Je remercie bien sûr Armand Guri et Enrico Mastrogiovanni qui étaient à la technique ce soir. Dans un instant, c'est Dancehall Reggae Vibes. Ensuite, à 22h30 audiométrique, bonne soirée, bon week-end. À l'écoute d'Aligre FM. À bientôt. Au revoir.
Version originale, Patrick, Léon-Émile.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.